Chapitre 11. Jeanne protectrice, Jeanne protégée, le portefeuille de la reine. Monsieur le cardinal de Rohan reçut, 2 jours après sa visite à Bemeur, un billet ainsi conçu. Son éminence, monsieur le cardinal de Rohan, sait sans doute où il soupera ce soir. « De la petite comtesse, dit-il en flairant le papier, j'irai. » Voici à quel propos madame de Lamotte demandait cette entrevue avec le cardinal. Des 5 laquais mis à son service par son éminence, elle en avait distingué un, cheveux noirs, yeux bruns, le teint fleuri du sanguin mêlé à la solide carnation du bilieu. C'était, pour l'observatrice, tous les symptômes d'une organisation active, intelligente et opiniâtre. Elle fit venir cet homme et, en un quart d'heure, elle obtint de sa docilité, de sa perspicacité, ce qu'elle voulait en tirer. Cet homme suivit le cardinal et rapporta qu'il avait vu son éminence aller 2 fois en 2 jours chez messieurs Bemeur et Bossange. Jeanne en savait assez. Un homme tel que monsieur de Rohan ne marchande pas, d'habiles marchands comme Bemeur ne laisse pas aller l'acheteur. Le collier devait être vendu. Vendu par Bemeur, acheté par monsieur de Rohan, et ce dernier n'en avait pas sonné un mot à sa confidente, à sa maîtresse. Le symptôme était grave. Jeanne plissa son front, pinça ses lèvres fines, et adressa au cardinal le billet que nous avons lu. Monsieur de Rohan vint le soir. Il s'était fait précéder d'un panier de tocailles et de quelques raretés, absolument comme s'il allait souper chez la Guimard ou chez mademoiselle d'Angeville. L'alliance n'échappa plus à Jeanne que tant d'autres ne lui avaient échappé. Elle affecta de ne rien faire servir de ce qu'avait envoyé le cardinal, puis ouvrant avec lui la conversation avec une certaine tendresse lorsqu'ils furent seuls, « En vérité, monseigneur, dit-elle, une chose m'afflige considérablement. »« Oh, laquelle, comtesse ?» fit monsieur de Rohan avec cette affectation de contrariété qui n'est pas toujours signe que l'on est contrarié véritablement. « Eh bien, monseigneur, la cause de ma contrariété, c'est de voir, non pas que vous ne m'aimez plus, mais que vous ne m'avez jamais aimé. »« Oh, comtesse, que dites-vous là ?» « Ne vous excusez pas, monseigneur, ce serait du temps perdu. »« Pour moi, » dit galamment le cardinal. « Non, pour moi, » répondit nettement madame de Lamotte. « D'ailleurs, oh, comtesse, » fit le cardinal, « ne vous désolez pas, monseigneur, cela m'est parfaitement indifférent. »« Que je vous aime ou que je ne vous aime pas ?»« Oui. »« Et pourquoi ça vous est-il indifférent ?»« Parce que je ne vous aime pas, moi. » « Comtesse, savez-vous que ce point obligeant, ce que vous me faites l'honneur de me dire là ?»« En effet, il est vrai que nous ne débutons point par les douceurs, c'est un fait, constatons-le. »« Quel fait ? Que je ne vous ai jamais plus aimé, monseigneur, que vous ne m'avez aimé vous-même. » »« Quant à moi, il ne faut pas dire cela !» s'écria le prince avec un accent de presque vérité. « J'ai eu pour vous beaucoup d'affection, comtesse. Ne me logez donc pas à la même enseigne que vous. »« Voyons, monseigneur, estimons-nous assez l'un et l'autre pour nous dire la vérité. »« Et la vérité, quelle est-elle ? Il y a entre nous un lien bien autrement plus fort que l'amour. »« Lequel ? L'intérêt. »« L'intérêt, fi, comtesse. » « Monseigneur, je vous dirai, comme le paysan normand disait de la potence à son fils, si tu es dégoûté, n'en dégoûte pas les autres. Fille de l'intérêt, monseigneur, comme vous y allez. »« Eh bien, donc voyons, comtesse, supposons que nous soyons intéressés. En quoi puis-je servir vos intérêts et vous, les miens ? D'abord, monseigneur, et avant toute chose, il me prend envie de vous faire une querelle. Faites, comtesse. » Vous avez manqué de confiance envers moi, c'est-à-dire d'estime. Moi, et quand ça, je vous prie? Quand n'iriez-vous qu'après m'avoir tiré habilement de l'esprit des détails que je mourrais d'envie de vous donner? Sur quoi, comtesse? Sur le goût de certaines grandes dames pour certaines choses. Vous vous êtes mis en mesure de satisfaire ce goût sans m'en parler. tirer des détails, deviner le goût de certaines dames pour certaines choses, satisfaire ce goût. Comtesse, en vérité, vous êtes une énigme, un sphinx. Ah, j'avais bien vu la tête et le cou de la femme, mais je n'avais pas encore vu les griffes du lion. Il paraît que vous allez me les montrer ce soir. Eh non, je ne vous montrerai rien du tout, monseigneur, attendu que vous n'avez plus envie de rien voir. Je vous donnerai purement et simplement le mot de l'énigme. Détail, c'est ce qui s'est passé à Versailles. Le goût de certaines dames, c'est la reine, et la satisfaction donnée à ce goût de la reine, c'est l'achat que vous avez fait hier à messieurs Boehmer et Bossange de leur fameux collier. Comtesse, murmura le cardinal, tout vacillant et tout pâle. Jeanne attacha sur lui son plus clair regard. Voyons, dit-elle, pourquoi me regarder ainsi d'un air tout effaré? Est-ce que vous n'avez point hier passé marché avec les joailliers du quai de l'Étoile? Un Rouen ne ment pas, même à une femme. Le cardinal se tut. Et comme il allait rougir, sorte de déplaisir qu'un homme ne pardonne jamais à la femme qui le cause, Jeanne se hâta de prendre la main. « Pardon, mon prince, dit-elle, j'ai hâte de vous dire en quoi vous vous trompiez sur moi. Vous m'avez cru sotte et méchante. Oh, comtesse, enfin, oh, pas un mot de plus. Laissez-moi parler à mon tour. Je vous persuaderai peut-être, car dès aujourd'hui, je vois clairement à qui j'ai affaire. Je m'attendais à trouver en vous une jolie femme, une femme d'esprit, une maîtresse charmante. Vous êtes mieux que cela. Écoutez. » Jeanne se rapprocha du cardinal, laissant sa main dans ses mains. « Vous avez bien voulu être ma maîtresse, mon ami, sans m'aimer. » « Vous me l'avez dit vous-même, poursuivit monsieur de Rohan. »« Je vous le redis encore, fit madame de Lamotte. »« Vous aviez un but alors ?»« Assurément. »« Le but, comtesse ?»« Vous avez besoin que je vous l'explique ?»« Non, je le touche du doigt. »« Vous voulez faire ma fortune. »« N'est-il pas sûr qu'une fois ma fortune faite, mon premier soin sera d'assurer la vôtre ? » »« Est-ce bien cela ? Et me suis-je trompé ?» Vous ne vous êtes pas trompé, monseigneur, et c'est bien cela. Seulement, croyez-moi sans phrase, ce but-là, je ne l'ai pas poursuivi au milieu des antipathies et des répugnances. La route a été agréable. Vous êtes une aimable femme, comtesse, et c'est tout plaisir de causer affaire avec vous. Je disais donc que vous avez deviné juste. Vous savez que j'ai quelque part un respectueux attachement. Je l'ai vu au bal de l'opéra, mon prince. Ah, cet attachement ne sera jamais partagé, oh, Dieu me garde de le croire. Eh, fit la comtesse, une femme n'est pas toujours reine, et vous valez bien que je sache, monsieur le cardinal Mazarin. Oh, c'était un fort bel homme aussi, dit en riant monsieur de Rohan. Et un excellent premier ministre, repartit Jeanne, avec le plus grand calme. Comtesse, avec vous, c'est peine perdue de penser, c'est 20 fois surabondant de dire, vous pensez et vous parlez pour vos amis. Oui, je tends à devenir premier ministre, tout m'y pousse, la naissance, l'habitude des affaires, certaines bienveillances que me témoignent les cours étrangères, beaucoup de sympathie qui m'est accordée par le peuple français. Tout enfin, dit Jeanne, excepté une chose. « Excepté une répugnance, voulez-vous dire ?»« Oui, de la reine. Et cette répugnance, c'est le véritable obstacle. Ce qu'elle aime, la reine, il faut toujours que le roi finisse par l'aimer. Ce qu'elle hait, il le déteste d'avance. »« Et elle me hait ?»« Oh, soyons francs, je ne crois pas qu'il nous soit permis de rester en si beau chemin, comtesse. »« Eh bien, monseigneur, la reine ne vous aime pas. » Oh, alors je suis perdu, il n'y a pas de collier qui tienne. Voilà en quoi vous pouvez vous tromper, prince. Le collier est acheté. Au moins la reine verra-t-elle que, si elle ne vous aime pas, vous l'aimez, vous. Oh, comtesse, vous savez, monseigneur, que nous sommes convenus d'appeler les choses par leur nom. Soit, vous dites donc que vous ne désespérez pas de me voir un jour premier ministre. « J'en suis sûr. Je m'en voudrais de ne pas vous demander quelles sont vos ambitions. Je vous les dirai, prince, quand vous serez en état de les satisfaire. C'est parlé, cela. Je vous attends à ce jour. Merci. Maintenant, soupons. Le cardinal prit la main de Jeanne et la serra comme Jeanne avait tant désiré que sa main fût serrée quelques jours avant. Mais ce temps était passé. Elle retira sa main. « Eh bien, comtesse, soupons, vous dis-je, monseigneur. Mais je n'ai plus faim. Alors causons. Je n'ai plus rien à dire. Alors quittons-nous. Voilà, dit-il, ce que vous appelez notre alliance, vous me congédiez ?»«
Pour être vraiment l'un à l'autre, dit-elle, monseigneur, soyons tout à fait l'un et l'autre à nous-mêmes. »
« Vous avez raison, comtesse. Pardon de m'être encore trompé cette fois sur votre compte. Je vous jure bien que ce sera la dernière. » Il lui reprit la main et la baisa si respectueusement qu'il ne vit pas le sourire narquois, diabolique de la comtesse au moment où ces mots avaient retenti « Ce sera la dernière fois que je me tromperai sur votre compte. » Jeanne se leva, reconduisit le prince jusqu'à l'antichambre. Là, il s'arrêta et tout bas, « La suite, comtesse, c'est tout simple. Que ferai-je ?
Rien, attendez-moi, et vous irez à Versailles.
Quand ?
Demain.
Et j'aurai réponse tout de suite. Allons, ma protectrice, je m'abandonne à vous.
Laissez-moi faire. »
Elle rentra sur ce mot chez elle, se mit au lit, et considérant vaguement le bel endymion de marbre qui attendait Diane, « Décidément, la liberté vaut mieux, murmura-t-elle. Maîtresse d'un pareil secret, riche d'un pareil avenir, étayée de deux appuis si considérables, Jeanne se sentit forte à lever le monde. Elle se donna 15 jours de délai pour commencer de mordre pleinement à la grappe savoureuse que la fortune suspendait au-dessus de son front. Paraître à la cour non plus comme une solliciteuse, non plus comme la pauvre mendiante retirée par madame de Boulainvilliers, mais comme une descendante des Valois, riche de 100 000 livres de rente, avoir un mari duc et pair, s'appeler la favorite de la reine, et par ce temps d'intrigue et d'orage, gouverner l'État en gouvernant le roi par Marie-Antoinette. Voilà tout simplement le panorama qui se déroula devant l'inépuisable imagination de la comtesse de Motte. Le jour venu, elle ne fit qu'un bond jusqu'à Versailles. Elle n'avait pas de lettre d'audience, mais sa foi en sa fortune était devenue telle que Jeanne ne doutait plus de voir fléchir l'étiquette devant son désir. Et elle avait raison. Tous ces officieux de cour, si fort empressés à deviner les goûts du maître, avaient remarqué déjà combien Marie-Antoinette prenait de plaisir dans la société de la jolie comtesse. Ce fut assez pour qu'à son arrivée, un huissier intelligent, jaloux de se faire bien venir, alla se placer sur le passage de la reine qui venait à la chapelle, et là, comme par hasard, prononça devant le gentilhomme de service ces mots « Monsieur, comment faire pour madame la comtesse de la Motte Valois, qui n'a pas de lettre d'audience ?» La reine causait bas avec madame de Lamballe. Le nom de Jeanne, si adroitement lancé par cet homme, l'arrêta dans sa conversation. Elle se retourna. « Ne dit-on pas, demanda-t-elle, qu'il y a là madame de la Motte Valois ?»«
Je crois que oui, votre majesté, répliqua le gentilhomme.
« Qui dit cela ?»«
Cet huissier, madame. »
L'huissier s'inclina modestement. « Je recevrai madame de la Motte Valois, » fit la reine, qui continua sa route. Puis, en se retirant, « Vous la conduirez dans le cabinet des bains, » dit-elle, et elle passa. Jeanne, à qui cet homme raconta simplement ce qu'il venait de faire, porta tout de suite la main à sa bourse, mais l'huissier l'arrêta par un sourire. « Madame la comtesse, veuillez, vous prie, dit-il, accumuler cette dette. Vous pourrez bientôt me la payer avec de meilleurs intérêts. »
Jeanne remit l'argent dans sa poche. « Vous avez raison, mon ami, merci. »
« Pourquoi, se dit-elle, ne protégerai pas un huissier qui m'a protégé ? J'en fais bien autant pour un cardinal. » Jeanne se trouva bientôt en présence de sa souveraine. Marie-Antoinette était sérieuse, peu disposée en apparence, peut-être même par cela qu'elle avait trop favorisé la comtesse avec une réception inespérée. « Au fond, pensa l'ami de monsieur de Rohan, la reine se figure que je vais encore mendier. Avant que j'aie prononcé 10 mots, elle sera déridée ou m'aura fait jeter à la porte. «
Madame, dit la reine, je n'ai pas encore trouvé l'occasion de parler au roi. Oh, madame, votre majesté n'a été que trop bonne déjà pour moi. Je n'attends rien de plus. Je venais. Pourquoi venez-vous? Dit la reine, habile à saisir les transitions. Vous n'aviez pas demandé audience. Il y a urgence, peut-être, pour vous. Urgence, oui, madame, mais pour moi, non. Pour moi, alors, voyons, parlez, comtesse. Et la reine conduisit Jeanne dans la salle des bains où ses femmes l'attendaient. La comtesse, voyant autour de la reine ce monde, ne commençait pas la conversation. La reine, une fois au bain, renvoya ses femmes. Madame, dit Jeanne, votre majesté me voit bien embarrassée. Comment cela? Je vous le disais bien. Votre majesté sait, je crois, le lui avoir dit, toute la grâce que met monsieur le cardinal de Rohan à m'obliger. La reine fronça le sourcil. Je ne sais, dit-elle, je croyais. N'importe, dites. Eh bien, madame, son éminence me fit l'honneur avant-hier de me rendre visite. Ah, c'était pour une bonne œuvre que je préside. Très bien, comtesse, très bien. Je donnerai aussi à votre bonne œuvre. Votre majesté se méprend. J'ai eu l'honneur de lui dire que je ne demandais rien. Monsieur le cardinal, selon sa coutume, me parla de la bonté de la reine, de sa grâce inépuisable, et demanda que je protégeasse ses protégés. D'abord, oui, votre majesté. Je le ferai, non pour monsieur le cardinal, mais pour les malheureux que j'accueille toujours bien, de quelque part qu'ils viennent. Seulement, dites à son éminence que je suis fort gêné. Hélas, madame, voilà bien ce que je lui dis, et de là vient l'embarras que je signalais à la reine. Ah, j'exprimais à monsieur le cardinal toute la charité si ardente dont s'emplit le cœur de votre majesté à l'annonce d'une infortune quelconque, toute la générosité qui fait vider incessamment la bourse de la reine, trop étroite toujours. Bien, bien. Tenez, monseigneur, lui dis-je, comme exemple, sa majesté se rend esclave de ses propres bontés, elle se sacrifie à ses pauvres. Le bien qu'elle fait lui tourne à mal, et là-dessus, je m'accusais moi-même. Comment cela, comtesse, dit la reine, qui écoutait, soit que Jeanne eût su l'apprendre par son faible, soit que l'esprit distingué de Marie-Antoinette sentit, sous la longueur de ce préambule, un vif intérêt résultant pour elle de la préparation. Je dis, madame, que votre majesté m'avait donné une forte somme quelques jours avant, que 1000 fois au moins cela était arrivé depuis 2 ans à la reine, et que si la reine eût été moins sensible, moins généreuse, elle aurait 2 millions en caisse, grâce auxquels nulle considération ne l'empêcherait de se donner ce beau collier de diamants si noblement, si courageusement, mais permettez-moi de le dire, madame, si injustement repoussée. La reine rougit et se remit à regarder Jeanne. Évidemment, la conclusion se renfermait dans la dernière phrase. Y avait-il piège? Y avait-il seulement flagornerie? Certes, la question étant ainsi posée, il ne pouvait manquer d'y avoir danger pour une reine. Mais sa majesté rencontra sur le visage de Jeanne tant de douceur, de candide bienveillance, tant de vérité pure, que rien n'accusait une pareille physionomie d'être perfide ou adulatrice. Et comme la reine elle-même avait une âme pleine de vraie générosité, et que dans la générosité il y a toujours la force, dans la force toujours la solide vérité, alors Marie-Antoinette, poussant un soupir, oui, dit-elle, le collier est beau, il était beau, veux-je dire, et je suis bien aise qu'une femme de goût me loue de l'avoir repoussé. Si vous saviez, madame, s'écria Jeanne, coupant à propos la phrase, comme on finit par connaître les sentiments des gens lorsqu'on porte intérêt à ce que ces gens aiment. Que voulez-vous dire? Je veux dire, madame, qu'en apprenant votre héroïque sacrifice du collier, je vis monsieur de Rohan pâlir. Pâlir? En un mot, ses yeux se remplirent de larmes. Je ne sais, madame, il est vrai que monsieur de Rohan soit un bel homme et un seigneur accompli, ainsi que beaucoup le prétendent. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, sa figure, éclairée par le feu de son âme, est toute sillonnée de larmes provoquées par votre généreux désintéressement, que dis-je, par votre privation sublime, cette figure-là ne sortira jamais de mon souvenir. La reine s'arrêta un moment à faire tomber l'eau du bec de cygne doré qui plongeait sur sa baignoire de marbre. « Eh bien, comtesse, dit-elle, puisque monsieur de Rohan vous a paru si beau et si accompli que vous venez de le dire, je ne vous engage pas à le lui laisser voir. C'est un prélat mondain, un pasteur qui prend la brebis autant pour lui-même que pour le seigneur. Oh, madame! Eh bien, quoi? Est-ce que je calomnie? N'est-ce pas là sa réputation? Ne s'en fait-il pas une sorte de gloire? Ne le voyez-vous pas, au jour de cérémonie, agiter ses belles mains en l'air? Elles sont belles, c'est vrai, pour les rendre plus blanches, et sur ses mains, étincelant de la bague pastorale, les dévotes fixant des yeux plus brillants que le diamant du cardinal. » Jeanne s'inclina. « Les trophées du cardinal poursuivit la reine emportée sont nombreux. Quelques-uns ont fait scandale. Le prélat est un amoureux comme ceux de la Fronde. Le loup qui voudra pour cela, je me récuse, allez. » « Eh bien, madame, fit Jeanne, mise à l'aise par cette familiarité, comme aussi par la situation toute physique de son interlocutrice, je ne sais pas si monsieur le cardinal pensait aux dévotes quand il me parlait si ardemment des vertus de votre majesté, mais tout ce que je sais, c'est que ses belles mains, au lieu d'être en l'air, s'appuyaient sur son cœur. » La reine secoua la tête en riant forcément. « Oui, da, pensa Jeanne, est-ce que les choses iraient mieux que nous le croyons? Est-ce que le dépit serait notre auxiliaire? Oh, nous aurions trop de facilité, alors !» La reine reprit vite son air noble et indifférent. « Continuez, dit-elle. Votre majesté me glace cette modestie qui lui fait repousser même la louange du cardinal. Oh oui. Mais pourquoi, madame? Parce qu'elle m'est suspecte, comtesse. » « Il ne m'appartient pas, répliqua Jeanne avec le plus profond respect, de défendre celui qui a été assez malheureux pour être tombé dans la disgrâce de votre majesté. N'en doutons pas un moment, celui-là est bien coupable, puisqu'il a déplu à la reine. Monsieur de Rohan ne m'a pas déplu, il m'a offensé, mais je suis reine et chrétienne, et doublement portée, par conséquent, à oublier les offenses. » Et la reine dit ces paroles avec cette majestueuse bonté qui n'appartenait qu'à elle. Jeanne se tut. « Vous dites plus rien? Je serai suspecte à votre majesté. J'encourrai sa disgrâce, son blâme, en exprimant une opinion qui froisserait la sienne. Vous pensez le contraire de ce que je pense à l'égard du cardinal? Diamétralement, madame. » Vous ne parleriez pas ainsi le jour où vous sauriez ce que le prince Louis a fait contre moi. Je sais seulement ce que je l'ai vu faire pour le service de votre majesté. Des galanteries? Jeanne s'inclina. Des politesses, des souhaits, des compliments? Continua la reine. Jeanne se tut. Vous avez pour monsieur de Rohan une amitié vive, comtesse. Je ne l'attaquerai plus devant vous. Et la reine se mit à rire. « Madame, répondit Jeanne, j'aimerais mieux votre colère que votre raillerie. Ce que ressent monsieur le cardinal pour votre majesté est un sentiment tellement respectueux que, j'en suis sûr, s'il voyait la reine rire de lui, il mourrait. Oh, il a donc bien changé. Mais votre majesté me faisait l'honneur de me le dire l'autre jour que, depuis 10 ans déjà, monsieur de Rohan était passionnément... « Je plaisantais, comtesse, dit sévèrement la reine. » Jeanne, réduite au silence, parut à la reine résignée à ne plus lutter, mais Marie-Antoinette se trompait bien. Pour ces femmes, nature de tigre et de serpent, le moment où elle se replie est toujours le prélude de l'attaque. Le repos concentré précède l'élan. « Vous parliez de ces diamants, fit imprudemment la reine. Avouez que vous y avez pensé. » « Jour et nuit, madame, dit Jeanne, avec la joie d'un général qui voit faire sur le champ de bataille une faute décisive à son ennemi. Ils sont beaux, ils iront si bien à votre majesté. » « Comment cela ? » ?»« Oui, madame, oui, à votre majesté. » « Mais ils sont vendus. » « Oui, ils sont vendus. » « À l'ambassadeur de Portugal. » Jeanne secoua doucement la tête. « Non, fit la reine avec joie. Non, madame. » « À qui donc ?»« Monsieur de Rohan les a achetés. » La reine fit un bond, et tout à coup refroidit. Ah, fit-elle. Tenez, madame, dit Jeanne avec une éloquence pleine de fougue et d'entraînement, ce que fait monsieur de Rohan est superbe. C'est un mouvement de générosité, de bon cœur, c'est un beau mouvement. Une âme comme celle de votre majesté ne peut s'empêcher de sympathiser avec tout ce qui est bon et sensible. À peine monsieur de Rohan a-t-il su, par moi, je l'avoue, la gêne momentanée de votre majesté, comment, s'est-il écrié, la reine de France se refuse ce que n'oserait se refuser une femme de fermier général, comment la reine peut s'exposer à voir un jour madame Necker parée de ses diamants? Monsieur de Rohan ignorait encore que l'ambassadeur de Portugal les eût marchandés. Je le lui ai appris. Son indignation redoubla. Ce n'est plus, dit-il, une question de plaisir à faire à la reine, c'est une question de dignité royale. Je connais l'esprit des cours étrangères. Vanité, ostentation, on y rira de la reine de France, qui n'a plus d'argent pour satisfaire un goût légitime. Et moi qui souffrirais qu'on raillât la reine de France, non, jamais. Et il m'a quitté brusquement. Une heure après, je sus qu'il avait acheté les diamants. 1500 000 livres, 1600 000 livres. Et quelle a été son intention en les achetant? Mais que, puisqu'il ne pouvait être à votre majesté, il ne fût-ce pas du moins à une autre femme. Et vous êtes sûr que ce n'est pas pour en faire hommage à quelque maîtresse que monsieur de Rohan a acheté ce collier? Je suis sûr que c'est pour l'anéantir plutôt que de le voir briller à un autre col qu'à celui de la reine. Marie-Antoinette réfléchit et sa noble physionomie laissa voir sans nuage tout ce qui se passait dans son âme. « Ce qu'a fait là monsieur de Rohan, eh bien, dit-elle, c'est un très noble et d'un dévouement délicat. » Jeanne absorbait ardemment ces paroles. « Vous remercierez donc monsieur de Rohan, continua la reine. « Oui, madame. Vous ajouterez que l'amitié de monsieur de Rohan m'est prouvée et que moi, en honnête homme ainsi que le dit Catherine, j'accepte tout de l'amitié à charge de la revanche. Aussi, j'accepte non pas le don de monsieur de Rohan, quoi donc alors, mais son avance. Monsieur de Rohan a bien voulu avancer son argent ou son crédit pour me faire plaisir. Je le rembourserai. Bemer avait demandé du comptant, je crois. Oui, madame. Combien? 200 000 livres? 250 000 livres. C'est le trimestre de la pension que me fait le roi. On me l'a envoyé ce matin d'avance. Je le sais, mais enfin, on me l'a envoyé. La reine sonna rapidement ses femmes qui l'habillèrent après l'avoir enveloppée de fines batistes chauffées. Restée seule avec Jeanne et réinstallée dans sa chambre, elle dit à la comtesse, « Ouvrez, je vous prie, ce tiroir. Le premier? Non, le second. Vous voyez un portefeuille? Le voici, madame. Il renferme 250 000 livres. Comptez-les. » Jeanne obéit. « Portez-les au cardinal, remerciez-le encore, dites-lui que chaque mois je m'arrangerai pour payer ainsi, on réglera les intérêts, de cette façon j'aurai le collier qui me plaisait tant, et si je me gêne pour le payer, au moins je ne gênerai pas le roi. » Elle se recueillit une minute. « Et j'aurai gagné à cela, continua-t-elle, d'apprendre que j'ai un ami délicat et qui m'a servi. » Elle attendit encore. « Et une amie qui m'a deviné, fit-elle en offrant à Jeanne sa main sur laquelle se précipita la comtesse. Puis, comme elle allait sortir, après avoir encore hésité, « Comtesse, dit-elle tout bas, comme si elle avait peur de ce qu'elle disait, « vous instruirez monsieur de Rohan qu'il sera bienvenu à Versailles et que j'ai des remerciements à lui faire. » Jeanne s'élança hors de l'appartement, non pas ivre, mais insensée de joie et d'orgueil satisfait. Elle serrait les billets de caisse comme un vautour sa proie volée. Cette fortune, au propre et au figuré, que portait Jeanne de Valois, nul n'en sentit l'importance plus que les chevaux qui l'amenèrent de Versailles. Si jamais chevaux pressés de gagner un prix volèrent dans la carrière, ce furent ces deux pauvres chevaux de carrosse de louage. Leur cocher, stimulé par la comtesse, leur fit croire qu'ils étaient légers quadrupèdes du pays d'Hélice et qu'il y avait à gagner 2 talents d'or pour le maître, triple ration d'orge mondée pour eux. Le cardinal n'est pas encore sorti quand madame de Lamotte arriva chez lui, tout au milieu de son hôtel et de son monde. Elle se fit annoncer, plus cérémonieusement, qu'elle n'avait fait chez la reine. « Vous venez de Versailles, dit-il. « Oui, monseigneur. » Il la regardait, elle était impénétrable. Elle vit son frisson, sa tristesse, son malaise. Elle n'eut pitié de rien. « Eh bien, fit-il. « Eh bien, voyons, monseigneur, que désirez-vous? Parlez un peu, afin que je ne me fasse pas trop de reproches. »« Ah, comtesse, vous me dites cela d'un air. »« Attristant, n'est-ce pas ? » ?»« Tuant. Vous vouliez que je visse la reine. »« Oui, je l'ai vue. » Vous vouliez qu'elle me laissât parler de vous, elle qui, plusieurs fois, avait témoigné son éloignement pour vous et son mécontentement en entendant prononcer votre nom. Je crois qu'il faut, si j'ai eu ce désir, renoncer à le voir exaucé. Non, la reine m'a parlé de vous. Ou plutôt, vous avez été assez bonne pour lui parler de moi. Il est vrai. Et Sa Majesté a écouté. Cela mérite explication. Ne me dites pas un mot de plus, comtesse. Je vois combien Sa Majesté a eu de répugnance. Non, pas trop. J'ai osé parler du collier. Osé lui dire que j'ai pensé à l'acheter pour elle, oui. Oh, comtesse, c'est sublime. Et elle a écouté? Mais oui. Vous lui avez dit que je lui offrais ces diamants. Elle a refusé tout net. Je suis perdu. Refuser d'accepter le don, oui, mais le prêt, vous auriez donc tourné si délicatement l'offre, si délicatement qu'elle l'a acceptée. Je prête à la reine, moi, comtesse, est-il possible? C'est plus que si vous donniez, n'est-ce pas? 1000 fois. Je le pensais bien, toutefois, Sa Majesté accepte. Le cardinal se leva, puis se rassit. Il vint encore jusqu'à Jeanne, et lui prenant les mains, « Ne me trompez pas, dit-il, songez qu'avec un mot, vous pouvez faire de moi le dernier des hommes. » On ne joue pas avec les passions, monseigneur, c'est bon avec le ridicule, et les hommes de votre rang et de votre mérite ne peuvent jamais être ridicules. C'est vrai. Alors ce que vous me dites est l'exacte vérité. J'ai un secret avec la reine, un secret mortel. Le cardinal courut à Jeanne et lui serra les mains tendrement. « J'aime cette poignée de main, dit la comtesse, elle est d'homme à homme. Elle est d'un homme heureux à un ange protecteur. Monseigneur, n'exagérez rien. Oh, si fait ma joie, ma reconnaissance, jamais. Mais vous exagérez l'une et l'autre, prêter 1,5 million à la reine, n'est-ce pas cela qu'il vous fallait ? » Le cardinal soupira. Buckingham eût demandé autre chose à Anne d'Autriche, monseigneur, après ses perles semées sur le parquet de la chambre royale. Ce que Buckingham a eu, comtesse, je ne veux pas même le souhaiter, fût-ce en rêve. Vous vous expliquerez de cela, monseigneur, avec la reine, car elle m'a donné l'ordre de vous avertir qu'elle vous verrait avec plaisir à Versailles. L'imprudente n'eut pas plus tôt laissé échapper ces mots que le cardinal blanchit comme un adolescent sous le premier baiser d'amour. Le fauteuil qui se trouvait à sa portée, il le prit en tâtonnant comme un homme ivre. « Ah, pensa Jeanne, c'est encore plus sérieux que je ne croyais. J'avais rêvé de duché, la pairie, 100 000 livres de rente, j'irai jusqu'à la principauté, jusqu'au 500 000 de rente, car Monsieur de Rohan ne travaille ni par ambition ni par avarice, il travaille par amour. » Monsieur de Rohan se remit vite. La joie n'est pas une maladie qui dure longtemps, et comme c'était un esprit solide, il jugea convenable de parler affaire avec Jeanne, afin de lui faire oublier qu'il venait de parler amour. Elle le laissa faire. « Mon ami, dit-il, en serrant Jeanne dans ses bras, qui prétend faire la reine de ce prêt que vous lui avez supposé, vous me demandez cela parce que la reine est censée n'avoir pas d'argent. Tout juste. » « Eh bien, elle prétend vous payer, comme si elle payait Boehmer avec cette différence, que si elle avait acheté de Beaumort, tout Paris le saurait, chose impossible depuis le fameux mot du vaisseau, et que si elle faisait faire l'amour au roi, toute la France ferait la grimace. La reine veut donc avoir en détail les diamants et les payer en détail. Vous lui en fournirez l'occasion. Vous êtes pour elle un caissier discret, un caissier solvable dans le cas où elle se trouverait embarrassée. Voilà tout, elle est heureuse et elle paie, n'en demandez pas plus. Elle paie, comment? La reine, femme qui comprend tout, sait bien que vous avez des dettes, monseigneur, et puis elle est fière, ce n'est pas une amie qui reçoive des présents. Quand je lui ai dit que vous aviez avancé 250 000 livres, vous le lui avez dit, mais pourquoi pas? Mais c'était lui rendre tout de suite l'affaire impossible. C'était lui procurer le moyen, la raison d'accepter. Rien, rien pour rien, voilà la devise de la reine. Mon Dieu! Jeanne fouilla tranquillement dans sa poche et en tira le portefeuille de sa majesté. Qu'est-ce là? Dit monsieur de Rohan. Un portefeuille qui renferme des billets de caisse pour 250 000 livres. Mais, et la reine vous les adresse avec un plus beau merci. Oh, le compte y est, j'ai compté. Il s'agit bien de cela. Mais que regardez-vous? Je regarde ce portefeuille que je ne vous connaissais pas. Il vous plaît? Il n'est cependant ni beau ni riche. Il me plaît, je ne sais pourquoi. Vous avez bon goût. Vous me raillez, en quoi dites-vous que j'ai bon goût? Mais sans doute, puisque vous avez le même goût que la reine. Ce portefeuille était à la reine, monseigneur. Y tenez-vous beaucoup? Oh, beaucoup! Monsieur de Rohan soupira. Cela se conçoit, dit-il. Cependant, s'il vous faisait plaisir, dit la comtesse avec ce sourire qui perd les seins, vous n'en doutez pas, comtesse, mais je ne veux pas vous en priver. Prenez-le. Comtesse, s'écria le cardinal, entraîné par sa joie, vous êtes l'amie la plus précieuse, la plus spirituelle, la plus... Oui, oui, et c'est entre nous, à la vie, à la mort, on dit toujours cela. Non, je n'ai qu'un mérite. Lequel donc? Celui d'avoir fait vos affaires avec assez de bonheur et avec beaucoup de zèle. Si vous n'aviez que ce bonheur-là, mon ami, je dirais que je vous vaux presque, attendu que moi, tandis que vous alliez à Versailles, pauvre cher, j'ai aussi travaillé pour vous. Jeanne regarda le cardinal avec surprise. « Oh, une misère, fit-il, un homme est venu, mon banquier, me prononcer des actions sur je ne sais quelle affaire de marais à dessécher ou à exploiter. Ah, c'est un profit certain, j'ai accepté. Eh bien, vous fîtes, eh bien, vous allez voir que je vous place toujours dans ma pensée au premier rang. Au deuxième, c'est encore plus que je ne mérite, mais voyons. » Mon banquier m'a donné 200 actions, j'en ai pris le quart pour vous, les dernières. Oh, monseigneur, laissez-moi donc faire. 2 heures après, il est revenu, le fait seul du placement de ses actions en ce jour avait déterminé une hausse de 100%. Il me donna 100 000 livres. Belle spéculation. Donc voici votre part, chère comtesse, je veux dire, chère amie. Et du paquet de 250 000 livres donné par la reine, il glissa 25 000 livres dans la main de Jeanne. « C'est bien, monseigneur, donnant, donnant. Ce qui me flatte le plus, c'est que vous avez pensé à moi. »« Il en sera toujours de même, » répliqua le cardinal en lui baisant la main. « Attendez-vous à l'appareil, » dit Jeanne. « Monseigneur, à bientôt, à Versailles. » Et elle partit, après avoir donné au cardinal la liste des échéances choisies par la reine et dont la première, à un mois de date, faisait une somme de 500 000 livres.